Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les tatatoires.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. Je
vous en question.
Mais écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. C'est un retour de l'homme prodigue, parce que je ne suis plus enfant à mon âge. Oui, parce que j'étais absent quelque temps. Et voici l'émission numéro 274 que j'ai le plaisir de vous annoncer avec Salima. Bonjour Salima.
Bonjour
Bruno.
Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Les Entonnoirs. Donc nous allons commencer par la spirale. Ensuite la fourmi des spectacles présentée par Nathalie. Nous allons enchaîner avec la chronique de Roger Lucien, la parenthèse. Pour continuer, la musique de Jean-Jacques Goldman de Margot. Ensuite la lecture de texte de Blandine. Également la chronique santé de Margot, la vie des bestioles, l'axolotl de Tar, l'actualité avec Johan, la musique de Fred, puis la pensée de la semaine, poème de Bruno, les devinettes de Florent et la météo de moi-même, Salima.
Voilà, donc tout de suite, on va passer à la spirale. La spirale, c'est de qui? C'est de, je crois que c'est le monsieur en question va parler de la spirale.
La spirale. Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine. Mais elle tourne aussi dans les têtes.
Alors aujourd'hui, je vous propose un morceau des Pogues. C'est un groupe post-punk de la fin des années 80 qui fait de la musique qu'on pourrait qualifier d'un peu folk, mais écoutez plutôt.
Works well. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drenched across the moon, falling on spring from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. On fire, I smell the spring
on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town, I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch tree. Dirty old town, dirty old town, I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Donc c'était une très belle musique de François, un peu cow-boy, voilà, le temps des westerns et tout ça, donc voilà, ça nous a fait un peu, c'est pas bon.
Et je dirais même plus, c'était,
là, je sais pas,
moi ça m'a fait,
arrête,
moi ça m'a, moi ça m'a fait penser à de la musique folk, à de la musique de marin.
Je sais même plus comment je dois faire.
En même temps, c'est marrant ce que tu dis, parce que quelque part, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a des petits airs de musique country un peu, mais c'est du folk irlandais. Il faut quand même pas oublier que les Irlandais ont envahi l'Amérique en masse, il fut un temps. Donc je pense que c'est lié le fait que la country et le folk se ressemblent finalement.
Je veux dire, pourquoi les Irlandais ont envahi les États-Unis? Parce qu'ils n'avaient pas la patate chez eux, à cause de la famine, donc ils n'avaient pas la patate, ils sont allés, parce que la patate c'était irlandais, ils n'avaient pas la patate, donc bah ils sont partis ailleurs, quoi. Enfin, c'est...
Oui, bref. Donc, très bien. Donc, nous allons poursuivre avec la fourmi des spectacles de Nathalie.
Concert. Théâtre. Ouf, détente. Musique. Spectacle. Humour. Comédie. Animation. Loisirs. Divertissement. Divertissement. Spectacle. Humour. Comédie. Loisirs. La fourmi des spectacles.
Alors bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Donc cette semaine, je vais vous parler du festival d'automne de théâtre amateur des pays du Nord. Alors ça se passe à Hellem à partir du 4 octobre et ça regroupe les villes de donc Hellem, hein, Bézieux, Villeneuve-d'Ascq, Marquette-les-Lilles, Marc-en-Barœul et Lille. C'est le rendez-vous annuel des amateurs du très bon théâtre amateur. 32 représentations, 19 troupes, organisées par la baraque foraine. Donc jusqu'au 6 octobre 2012, au Cursal, 135 rue Roger Salengro, le prix est de 8 euros l'entrée. Et comme tous les ans, des invités transfrontaliers et nationaux. En tout, 19 troupes joueront 28 spectacles pour 32 représentations. Je pense que c'est à voir absolument et ça doit être très intéressant. Sinon, je vais vous parler aussi du petit théâtre Le Comédia. Donc, le bal Foro. Vous connaissez certainement les bœufs de jazz. Et ben, désormais, vous aurez les bœufs Foro qui vous sont proposés donc au Comédia. Cette musique, qui est aussi une danse à deux brésilienne, est à l'honneur les jeudis pour permettre aux danseurs de prendre la piste et aux musiciens de prendre la scène aux côtés du groupe Foro. C'est une ambiance très festive et c'est le 4, le 11, le 18 et le 25 octobre 2012, donc à 21h30, à la Comédia, 151 rue Solferino à Lille, et l'entrée est gratuite. Voilà pour la semaine, à la semaine prochaine.
Merci bien Nathalie. J'espère que vous avez bien retenu les dates. C'est très intéressant et très enrichissant. Nous allons continuer avec la chronique de Roger Lucien, la parenthèse.
Bonjour chers auditeurs, auditrices. Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle rubrique qu'on appelle la parenthèse du jour. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette en lumière un pan de l'histoire des savants de la Grèce antique. Pour cela, je vais vous lire quelques extraits d'un ouvrage du savant tchèque Antadjop intitulé « Civilisation ou barbarie ». Mais avant, je vais vous dire qui était ce savant. Je vais donc lire un extrait du Dictionnaire de l'Afrique, édité chez Larousse, donc rapidement. Tchèque Antadjop, Djourbel, 1923, Dakar, 1986. Initiateur de l'Égypte nègre et de l'antériorité des civilisations noires, Tchèque Antadjop a bouleversé bien des idées reçues sur le peuplement de l'Égypte ancienne et réinséré la vallée du Nil dans son ensemble africain. Reprise dans leur globalité par les intellectuels noirs américains, ces idées eurent plus de mal à convaincre les milieux scientifiques traditionnels. Bien qu'aujourd'hui la nature nègre des premières civilisations égyptiennes ne fasse guère de doute et ouvre des voies passionnantes à la recherche. Donc la suite. Donc je lis des extraits du livre du savant Tchèque Antadjop, Civilisation ou barbarie, paru chez l'éditeur Présence Africaine. Donc au chapitre 16 de ce livre intitulé Apport de l'Afrique, science, mathématiques égyptiennes, géométrie. Il sera instructif de mettre en relief en matière d'introduction à ce chapitre les rapports indéniables qui existent entre la mathématique égyptienne et les prétendues découvertes qui ont fait la célébrité des savants grecs, tels Archimède et Pythagore pour ne citer que cela. Donc, ensuite, ce faisant, Archimède n'avait même pas l'excuse d'un savant de bonne foi qui redécouvrait un théorème établi à son insu 2000 ans avant lui par ses prédécesseurs égyptiens. Les autres emprunts auxquels il s'est livré pendant et après son voyage en Égypte, sans jamais citer ses sources d'inspiration, montrent bien qu'il était parfaitement conscient de son péché. Et qu'en cela, il restait fidèle à une tradition grecque de plagiat qui remontait à Thalès, Pythagore, Platon, Eudoxe, Eunopide, Aristote, etc. Et que les dépositions d'Hérodote et de Diodore de Sicile nous révèle en partie. Alors la suite, le traité d'Archimède intitulé « De l'équilibre des plans ou de leur centre de gravité » porte sur l'équilibre du levier, problème que les Égyptiens avaient maîtrisé depuis 2600 ans avant Jésus-Christ, époque de la construction des pyramides. Donc encore la suite. En effet, pour élever un monument de 5 millions de tonnes de pierre à 148 mètres de haut et comprenant des blocs de plusieurs tonnes, il fallait des notions solides de mécanique et surtout de statique. La connaissance de la théorie du levier était indispensable et Struve écrit. Aussi devons-nous admettre qu'en mécanique, les Égyptiens avaient plus de connaissances que nous ne voulions le croire. Il ajoute, les plans des Égyptiens sont aussi exacts que ceux des ingénieurs modernes. Et ensuite, on doit souligner avec force que les Grecs ne disaient jamais qu'ils ont été les élèves des Babyloniens ou des Chaldéens. Leurs savants les plus réputés se vanteront toujours d'avoir été les élèves des Égyptiens, ainsi que cela ressort des écrits de leur biographe Thalès, le père semi-légendaire de la mathématique grecque. Pythagore de Samos, Eudoxe, etc. Thalès a effectivement séjourné en Égypte, qu'il a bien été l'élève des prêtres égyptiens et qu'il ne saurait être l'inventeur du théorème qu'on lui attribue. Donc, c'était pour dire que, en fait, les prétendues découvertes faites par les savants grecs de l'Antiquité, en fait, c'est les Égyptiens qui en sont les inventeurs et que tous ces Grecs de l'Antiquité, dix savants, ont tous séjourné en Égypte pour y apprendre leur théorème, leur théorie, etc. Notamment dans le domaine des mathématiques et des sciences. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça?
Enfin, j'ai une remarque d'après ce que tu dis, parce que j'apprends des choses. Bon, c'est à vérifier d'après ce que tu dis, parce que ça, voilà quoi. C'est que finalement, nos points de vue sur l'Antiquité, ils sont encore très, très, très fragmentaires, quoi. C'est, voilà, moi, par exemple, un exemple concret, Sparte. Parce que c'est une cité très militaire où les hommes c'était des guerriers, des militaires, enfin des Spartiates. Je pensais que la femme avait un statut de femme soumise, et j'apprends maintenant que les femmes Spartiates avaient un statut meilleur que les femmes athéniennes. Ah oui, non mais voilà, et des tas de trucs comme ça quoi. C'est voilà, donc, et par rapport à ce que tu dis, il y a certains qu'on doit s'informer, et voilà, et remettre sans arrêt notre savoir par rapport à l'Antiquité, nos connaissances.
Marie-Agnès.
Oui, est-ce que ce que tu viens de dire corroborait le fait que certains pharaons étaient noirs?
Ouais, absolument.
Les premières dynasties, on dit toujours que les premières dynasties de pharaons étaient noires.
La question ne se pose même plus pour les égyptologues cultivés et les égyptologues de bonne foi. La question ne se pose pas pour eux. C'est les plus conservateurs d'entre eux qui ont toujours avancé l'idée comme quoi il y a eu des pharaons blancs dans l'histoire égyptienne. Mais la question ne se pose pas pour les pharaons les plus éminents comme Tchekantadjo, comme oui. Bien d'autres encore.
Oui, parce que là, d'après ce que j'avais lu et cru comprendre, parce que bon, c'est toujours un peu compliqué, il y aurait eu effectivement un blanchiment entre guillemets des pharaons uniquement par les Mycéniens qui seraient venus faire du commerce au fur et à mesure dans le delta du Nil, mais que au départ, comme c'était avec la basse Égypte, c'était effectivement des gens noirs de peau, et qu'après effectivement ils se sont métissés, et on parlerait même d'un Ramsès noir. Ramsès, c'est quand même pas n'importe qui au niveau pharaonique. Donc toi, tu serais tout à fait enclin à penser ce genre de choses.
Moi, je pense que les thèses du savant Tchekantadjo, qui datent des années 50, il mm-hmm. étudie en France, il a fait beaucoup de recherches, il a beaucoup lu, il a soutenu pas mal de thèses, et l'une de ses premières thèses portait sur l'Égypte ancienne. Cette thèse, il n'a pas pu la soutenir parce que il manquait des membres pour constituer le jury de sa thèse. Donc, il n'a pas pu la soutenir, mais il en a écrit un livre intitulé Nations nègres et culture, paru dans les années 50.
D'accord, ben j'essaierai
un livre très très intéressant.
J'essaierai de me le procurer parce que j'aimerais bien le lire et voir un peu sa vue d'esprit à lui et puis confronter avec ce que je connais. Et je trouve ça très très intéressant. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a Christian Jacques, qui est un romancier, mais aussi un égyptologue, a l'air d'adhérer justement à ça, au dire de
Tchèque.
Ah ouais. Et donc, ça soigne dans ses romans. Donc ça pourrait être intéressant à confronter les deux trucs, puis voir un peu.
Pardon.
Vas-y.
Et j'ai une information qu'il faudrait qu'on vérifie, c'est que j'y ai lu sur Internet que en France, les égyptologues noirs ne seraient pas mis à la télévision pour débattre. Donc, c'est une information qu'il faudrait vérifier parce
que
ça m'a laissé vraiment, bouche bée.
Écoute, ce que tu dis, c'est fort probable. Ça m'étonnerait pas parce qu'il y a des tabous qu'on croirait pas exister et qui existent par rapport à tout. Donc, on est dans une série de tabous politiques, idéologiques qui est dingue. Surtout, il y a un retour de ça, surtout aujourd'hui, quoi. Depuis les années 80. Voilà.
Et j'aimerais encore ajouter que l'histoire de l'Égypte a été falsifiée durant la période coloniale dans les années 50. Si je ne me trompe pas. Parce que l'impérialisme que chacun connaît devait dominer et falsifier l'histoire des peuples qu'il allait coloniser. Voilà.
Bien sûr.
Et donc, en guise de... Je vais encore lire quelques lignes de ce que j'ai écrit. Donc, enfin, je vous suggère quelques sujets bibliographiques de première importance pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'éclairage sur les sujets que nous venons d'évoquer. Pour tous les auditeurs et auditrices qui souhaitent réagir à ces sujets, nous vous invitons à nous appeler tous les lundis dans les studios des Entonnoirs au 03 28 33 48 34, de préférence dans la matinée de 10h à 12h. Donc les livres, rapidement. Vous avez La vallée du Nil, berceau de l'unité culturelle de l'Afrique noire, de Abou Bakri Moussalam, qui est un éminent égyptologue, professeur à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Et vous avez aussi Nations nègres et culture, aux éditions Présence africaine, paru en 1954 pour la première fois, réédité en livre de poche en 1979. Vous avez... c'est un livre choc, un titre choc de Cheikh Anta Diop qui est écrit « Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique, point d'interrogation, Paris, Présence africaine, 1967 ». Et vous avez aussi un livre en physique, toujours du savant Cheikh Anta Diop, qui est intéressant, je pense, parce que c'est un livre fort intéressant dans son dans un de ses domaines de prédilection, ce qui est la physique, parce que c'est un grand physicien aussi, Cheikh Anta Diop. C'est physique nucléaire et chronologie absolue, paru en 1974, je crois aussi aux éditions Présence africaine. Et pour les anglophones, bon, je sais pas qui manie bien la langue de Shakespeare ici, qui peut me lire ce titre. Je sais pas si Johan peut rapidement nous lire ce titre. C'est le titre aussi.
The African Origin of Civilization, Myth or Reality.
Ça?
Oui. New York. Westport, Lawrence Hill et compagnie, 1974.
Voilà, donc.
Alors, tu n'as pas choisi le bon pour l'accent anglais parce que.
Si, c'est parfait.
Non, mais
c'est
tu t'es pas mal débrouillé, c'est bien.
Parfait. Donc, Cheikh Anta Diop, c'est pour dire que Cheikh Anta Diop est connu aux États-Unis parce qu'il y a donné pas mal de conférences dans les universités.
Voilà, je vous remercie. Tu peux redonner le numéro de téléphone des entonnoirs?
Donc, je répète, le numéro de téléphone des entonnoirs, le 03 28 33 48 34.
Et laisser
un message.
Donc voilà, c'était très intéressant.
Pointu
aussi.
Merci.
Bah voilà, donc nous allons passer à la musique de Jean-Jacques Goldman de Margot. Donc délire schizo maniaco psychotique.
maniaco qui psychotique. Pourquoi noyer tout ça dans l'alcool ou l'éther quand on voit y a de quoi se resservir un verre. Tant de grands sentiments, de colloques en séance, de souffler tant de vent, une telle impuissance.
Les entonnoirs.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous. Ben, on va continuer la suite, et la suite, c'est une lecture de texte de Blandine. Blandine, c'est quoi cette lecture de texte pour commencer? C'est Madame Landais qui, c'est Madame Lartinon qui, Landais qui t'a demandé de faire ça, non? C'est autre chose?
Alors, oui, c'est, ce sont des textes collectifs qui sont écrits à l'atelier qui s'appelle L'Encrier, dans un service de Lucien Bonafé, le service de Roubaix Centre. D'accord. Et c'est tout un groupe qui se réunit chaque semaine et qui écrit, voilà, comme ça, des nouvelles, des textes. Et là, aujourd'hui, je vais vous lire oui.
Une question, ça se passe à l'intérieur de l'hôpital Bonafé ou...
Ça se passe dans le service même, de, oui, à l'intérieur de l'hôpital
D'accord,
Bonafé.
D'accord, faut le préciser pour les auditeurs.
Voilà, à l'intérieur.
D'accord.
Alors, ce texte n'a pas de titre. Voilà, texte collectif. Il était une fois une salle dans un lieu avenant d'aspect où on peut trouver des activités de lecture, d'écriture, de peinture, où on peut s'exprimer de manière différente avec d'autres personnes et oublier ne serait-ce que momentanément le lieu où l'on se trouve. Si on est là, c'est pour une cause. Une causette ? Non, 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 pas une causette. Pour causer, pour parler. Mais quelquefois, on n'a pas envie de parler. On a plutôt envie d'être seul. C'est vrai, mais essayer de s'exprimer, ça ne fait pas de tort, ça permet de réfléchir. Le silence est d'or et la parole est d'argent. Ce qui compte aussi, c'est le silence qui reste entre les mots. Mais des fois, on ne trouve pas les mots, M-A-U-X, et les mots, M-O-T-S, pour rassurer une personne qu'on aime. Des fois, on n'arrive pas à parler de son mal-être et on s'enferme alors dans une sombre solitude. Mais il y a toujours un rayon de soleil pour nous rattraper. Espoir, désespoir, espoir du matin, désespoir du soir. C'est la nuit et le soir où c'est plus dur. C'est tous les jours la même rengaine. Et tous les jours, je dégaine mon arme secrète. Et vous savez ce que c'est ? Ça permet de se défouler. Avez-vous une arme secrète ? Avez-vous regardé Mentaliste, Madame L ? Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas trouver nos armes secrètes. Demandez aux infirmiers, surtout assez. Ça vous laisse sans voix. Voilà, moi personnellement, je trouve ça très joli.
C'est émouvant.
Et voilà, je pense que les sentiments y sont et les ressentis.
Vous n'avez pas les fautes d'orthographe, hein ? Fautes d'orthographe, vous les jamais ? Je sais pas moi.
C'est pas très visible une forme. C'est ça le problème.
Voilà, en tout cas, on les remercie et puis je lirai prochainement un autre texte.
Oui, donc maintenant, je sais plus. Ah oui, c'est la chronique santé de Margot, je crois. Oui.
C'est l'heure des médicaments. Médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Oui, bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Donc, je vais vous parler des bienfaits du raisin. Il apparaît sur les tables au XVIIe siècle, cultivé dans les zones chaudes et températures Il se récolte en septembre et en octobre. Ses vertus est riche en eau et en minéraux et en oxydants. C'est ça? Il a des vertus drainage, diurétique et facile à la digestion. Il protège des maladies cardiovasculaires et riche en fibres, a été conseillé par des nutritionnistes. Voilà, ça veut dire que le raisin est très bon. Vous pouvez même boire de temps en temps un verre de vin par jour, ce n'est pas interdit. Donc voilà, bien sûr, faites attention à l'alcool, bien sûr. Un verre, ça va, mais trois verres, bon, le dégât. Voilà, au revoir.
Merci Margot pour cette chronique santé. Donc voilà, nous allons passer à la vie des bestioles. L'axolotl de Tarbes.
Oui, bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Nous allons parler des axolotls. Alors, ça vous dit? Alors, la définition. Alors, ça vient de la famille des urodèles, des ambystomatidae. Alors, qu'est-ce qu'un urodèle? C'est l'ordre des caudata, soit des amphibiens qui gardent une queue à l'état adulte, comme la salamandre et le triton, à la différence des anours, qui sont des grenouilles et des crapauds. Il peut passer toute sa vie à l'état larvaire, sans jamais se métamorphoser en adulte, et peut se reproduire à l'état larvaire, pédogénèse. Autre particularité, il est capable de se régénérer. On parle des organes détruits ou endommagés, comme les membres, les bronchies, l'œil, mais aussi le cerveau. Il a une tolérance maximum aux greffes, d'où un intérêt pour la recherche en biologie. Où le trouve-t-on? À l'état sauvage, dans le centre du Mexique, dans des cratères volcaniques remplis d'eau, qu'on appelle mares, à la température variante de 20 degrés en été, 6 degrés... voire, mais en hiver. Alors, une menace. Il est inscrit depuis 2008 dans la liste rouge des espèces menacées d'extinction et pourrait disparaître à l'état sauvage d'ici 5 ans. Actuellement, la première installation captivité date de 1863 au Jardin des Plantes. Les axolotls du commerce proviennent d'élevage et ne sont pas capturés dans le milieu naturel. Pour parler de sa vie, il est plutôt nocturne, son activité maximum se fait au lever et au coucher du soleil. La durée de vie à l'état larvaire, alors à l'état sauvage, elle est comprise de 18 à 24 mois et en captivité de 10 à 15 ans, voire 25 ans. Leur taille varie entre 15 à 33 cm. Au niveau de leur couleur, la pigmentation du brun foncé au bronze à l'état sauvage et en captivité. Mais ils peuvent présenter une forme dépigmentée ainsi qu'albinos en captivité. C'est sous cette forme-là qu'il est utilisé en recherche. Physiquement très proche de la salamandre tigrée, surtout sous la forme adulte. La métamorphose, elle consiste en la perte des bronchies au développement des poumons. Elle est très rare à l'état naturel et correspond souvent à un réchauffement climatique et l'évaporation d'eau du site. Elle est beaucoup plus aisée en captivité pour peu que l'on programme ce réchauffement en douceur et qu'on l'oriente vers un terrarium humide mais sans eau. L'instinct naturel, c'est un carnivore à état sauvage. Il mange des petites proies, des vers, des insectes, des petits poissons. En captivité, la nourriture peut être des granulés à base de poissons, des vers de vase ou des artémies. Il localise la proie par l'odorat, l'aspire directement dans l'estomac et provoque une dépression. C'est ce qu'on appelle la force du vide. Tout ce qui est plus petit que lui sera absorbé, y compris ses congénères. Pour l'élever, dans une eau très claire, peu ou pas de courant, peu de filtration et un renouvellement de 20% toutes les semaines. L'éclairage est inutile, évitez le petit gravier de préférence des petites pierres plates, des gros cailloux et des plantes flottantes, ainsi que des cavernes. La température idéale est de 17 à 18 degrés. Petit plus et anecdote, étymologiquement, le nom axolotl est tiré du nahuatl. Atl signifiant eau et xololtl signifiant chien, donc chien d'eau. Mais aussi xololtl était le dieu de la mort chez les Aztèques. Et la légende veut que pour échapper à l'exil, ce dieu se transforma en amphibien. Alors, pour parler de mes sources d'information, il faut vous connecter à Wikipédia
Ou alors vous avez une publication dans Shaw et Naudet en 1788, The Naturalist Miscellany. Merci à vous.
T'aurais dû me le laisser celui-là.
Super tard l'anglais.
Est-ce que vous avez des questions?
Comment t'écris Axolotl à la recherche Wikipédia?
Bah, Axolotl, ça s'écrit A-X-O-L-O-T-L.
Voilà. Qui signifie donc chien d'eau.
Chien d'eau, ouais.
Ok. Bon ben.
Okay. Non. Ben, je crois que maintenant c'est le tour de.
Nous allons passer à l'actualité avec Johan.
Voilà. Donc moi j'ai pas de jingle donc j'y vais direct. Donc je vais pas vous parler de millionnaires qui jouent à faire des paris au handball. Même si c'est très important. D'ailleurs on voit le nombre d'heures que ça prend dans les médias comme BFM TV et iTélé. Je les salue au passage. Je vais vous parler de trois manifestations massives qu'il y a eu en Europe hors France. C'est pas là en France. Alors si je vais vous faire la devinette, dans quel pays y a-t-il eu des manifestations massives la semaine dernière? Trois pays d'Europe.
L'Espagne.
Hein? Vas-y.
L'Espagne, la Grèce et le Portugal.
Voilà. Alors c'est, je trouvais que c'était important quand même à mettre en avant parce qu'en fait les manifestations c'est pas simplement contre l'austérité, ça c'est ce qu'ils nous disent à BFM, vous savez la belle journaliste bien maquillée qui joue de son charme et tout, elle nous dit que c'est pour l'austérité mais en fait c'est pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est contre l'austérité de l'Europe et ça il s'est pas précisé tout le temps et je trouve que c'est important parce que nous aussi on est en Europe en fait. Alors je voulais noter deux trucs très intéressants, c'est en Grèce par exemple, un truc qui est très important, c'est qu'il y a les militaires qui ont manifesté. Et moi personnellement, la dernière fois que j'ai vu des militaires dans la rue manifester, ça me fait penser au printemps arabe. Je sais pas vous. Ben c'est en Grèce.
Oui, par contre, je fais un peu d'histoire par rapport à mon passé militant. Moi qui étais contre les militaires par rapport à le colonialisme français, la guerre d'Algérie, les militaires qui torturaient par rapport aux colonels ou par rapport au franquisme, le général Franco ou par rapport, comment dire, au coup d'état de Pinochet, je me disais, les militaires, c'est tous des pourris. Puis d'un seul coup, en 1914, il y a eu la révolution des œillets qui était faite à l'initiative du MFA, mouvement des forces armées. Donc des fois, l'histoire est surprenante, tu veux, c'est pour ça qu'il est fiché, il faut vite passer au-dessus.
En tout cas ouais, bon, c'est pas la Syrie, hein, c'est plus proche de nous. Il y a quand même eu des milliers de manifestants en Grèce qui se sont mangés des plans de rigueur vraiment horribles, hein. Par exemple les fonctionnaires, je crois qu'on a baissé leur salaire de 25%. Et donc il y a les militaires en uniforme qui ont manifesté, je trouve que c'est quand même important de le noter. On a vu aussi en Espagne, on a eu quand même eu des images par internet assez impressionnantes en fait d'Espagnols, de manifestants qui sont pas des indignés comme on en a pu l'entendre dans les médias. C'est pas que des indignés, d'après les informations que moi j'ai eues par internet, c'est vraiment tout le peuple espagnol qui manifeste. Ils ont quand même essayé d'encercler le Parlement, donc c'est quand même un fait important, je trouve.
Toi, tu penses vraiment que ça pourrait partir comme le printemps arabe? Parce que je trouve effectivement les pays comme le Portugal, la Grèce et l'Espagne, ils ont des situations économiques qui sont désastreuses et qui sont aussi c'est une sorte de cercle vicieux économique avec les plans d'austérité et tout ça. Mais ce qui se passait quand même dans les printemps arabes, la situation était vachement différente. C'était des pays où c'était des pays limite des dictatures, où les gens c'était un contexte bien différent de la crise, et ce qui a poussé les gens à se révolter, c'est surtout qu'ils avaient faim. Est-ce que tu penses qu'on en est là aujourd'hui?
En Grèce, j'ai entendu des informations. En Grèce, par exemple, il paraît qu'il y avait beaucoup d'augmentation de malaise dans les écoles primaires parce que les enfants, ils partaient à l'école sans avoir mangé. Alors, en France, c'est pas encore le cas, mais en Grèce, c'est vraiment très, très grave. J'ai aussi, par exemple, aussi entendu des gens qui témoignaient par Internet qui disaient qu'ils avaient en fait quitté la société pour aller vivre dans des régions reculées en autarcie en fait. Donc je pense qu'en Grèce on n'en parle pas souvent parce que c'est vachement important le handball, hein, mais on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même grave. Et l'Espagne c'est quand même grave. Il y a aussi et je pense que ouais, la situation ça peut le devenir en fait, c'est peut-être pas encore, mais quand on s'y intéresse c'est quand même grave. Et aussi un truc dont je voulais dire sur les manifestations en Espagne, il y a un mec qui est devenu un héros ce week-end, c'est parce qu'en fait il a protégé des manifestants. Alors je sais pas si vous avez vu passer cette image, il est un tenancier de bistrot en fait, il a hébergé des manifestants dans son bistrot qui allaient se faire choper par les CRS-ESS, et il a empêché en fait les CRS de venir les choper dans son bistrot, et en fait c'est devenu un héros en Espagne. Voilà. Donc je voulais parler de ça comme information importante pour moi, c'est les plus importantes des informations cette semaine.
Par rapport à l'Espagne ou par rapport même aux autres manifestations, à noter que autant les indignés il y a quelques temps, il y a encore un an ou deux ans, c'était assez cool, assez gentillé, mais là je crois que il y a la castagne dans le sens où quand c'est on ne supporte plus, on ne supporte plus quoi. Voilà.
Ils s'en sont surtout pris plein la gueule, hein. C'est les indignés pour le chingball, hein. Franchement, quand on voit les images.
Oui, non, mais c'est que il y a la violence qui intervient. Bon, on déplore la violence, mais quand il y a trop de tension, il y a la violence automatiquement. C'est ça quoi.
Donc voilà, comme on l'a déjà pu le dire ici, je crois que les économies en fait en Europe, elles sont interdépendantes et qu'en fait c'est le problème de la dette. Et je sais pas si vous écoutez un peu. Le gouvernement, il parle pas de rigueur, il parle de politique de sérieux en fait. Donc ça va être à peu près la même chose. Donc préparer les banderoles, je sais pas, préparer les casques de protection.
Bon, il y a un mot dans tout con, la dette c'est du racket. Voilà, tout simplement.
Voilà, je voulais parler de ces manifestations, ça me semblait important. Même si je concède que le handball c'est vachement important, Karabatic c'est quand même une icône française.
Oui,
franchement ça me fait mal qu'il tombe quoi.
Ne pas confondre parce que je crois que les Français, si on parle du terme de handball, c'est qu'on parle le handball se joue avec la main. Et le football avec le pied, je crois que c'est ça.
C'est ça.
Voilà. Oui, mais ils ont dit qu'ils avaient parié, mais qu'ils n'avaient pas triché.
Ouais. Mais ils vont utiliser la défense Chewbacca. Voilà. C'est pour ceux qui connaissent pas. Allez voir South Park.
Oui. Le handball se joue avec la main. Donc on l'a pris la main dans le sac. Si. Non, c'est parce que non.
C'est ça.
Oui. Là.
Mais vous inquiétez pas, hein, vous les auditeurs. Hein, là, vendredi, vous avez dû en bouffer toute la semaine du handball. On compatit avec vous. Voilà, on peut passer à la suite. C'est tout ce que j'avais envie de dire.
Très bien, donc nous continuons avec la musique de Fred.
Oui, bonjour chers auditeurs, chères auditrices, c'est Fred, effectivement. Aujourd'hui, on m'a proposé de vous faire écouter une musique. J'ai proposé une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques mois à la télévision, à la suite d'un spectacle, d'une tournée qu'elle commençait, je pense que c'était à Paris à ce moment-là. Et j'ai vraiment craqué pour sa voix, pour ce qu'elle fait sur scène. Elle s'appelle Célassou, elle est belge, je pense qu'elle doit 23 ou 24 ans, et elle a sorti son premier album. Donc je voudrais vous faire écouter un titre qui est un de ses succès, qui s'appelle Crazy Vibes.
I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, I'll show ya. The rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes.
tonneau, hein.
Ici les fous.
Pardon ?
Ici les fous.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et je voudrais demander super. À Ben qui a eu le plaisir, peut-être le privilège, dira-t-on dans quelques temps, de la recevoir voici un an et demi, je crois, et qui pourra nous parler un petit peu de son impression par rapport à cet artiste que je trouve extraordinaire. Voilà.
Bah, qui est adorable, hein, d'ailleurs, qui est coiffé comme un balai en permanence, mais vraiment adorable, une petite nana de Leuven, très modeste, une belge, quoi, je veux dire, quand bien même elle vend des milliers de disques. Elle reste toujours très accessible. J'ai eu l'occasion de la recroiser à d'autres concerts quand elle était au Grand Mix ou au Zénith après. Enfin voilà, c'est quelqu'un vraiment d'excellent. Et je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'elle a faite dans les studios de RCV où elle improvise sur un morceau de dubstep. Faut savoir qu'elle, avant de faire son projet C'est la Sou, elle tournait en tant que MC avec des DJ qui mixent du dubstep. Je l'avais déjà vu aussi au Dour Festival avant même qu'elle soit connue, quoi. Donc voilà, une artiste complète et... Et bah, j'ai rien d'autre à ajouter, quoi, si ce n'est qu'elle est beaucoup influencée, ça s'entend énormément sur cet album par des nanas comme Lauryn Hill ou Mia, mais je pense que à l'avenir elle fera pas que du reggae et ça risque d'évoluer pas mal. Voilà.
J'aurais aimé.
Voilà, merci Ben.
Y a quelqu'un qui parle hors du micro, mais il faut préciser que s'il veut parler et qu'il vienne au micro, on l'attend 2 secondes, c'est Jérôme. Excusez-moi Jérôme d'intervenir de cette façon. Bonjour.
Oui, bonjour. En fait, je disais tout simplement que ça m'évoquait assez Amy Winehouse. Je sais pas si tu connais Frédéric.
Bien sûr.
Qui est décédé, qui est Club des 27. Club des 27.
Tout à fait. On espère que C'est la Sou n'aura pas ce destin tragique.
Donc ensuite, je crois que c'est la pensée de la semaine. Et la pensée de la semaine, c'est Nathalie, je crois. Non, c'est...
La pensée de la semaine. Chut, j'ai les entonnoirs.
Donc, chères auditrices et chers auditeurs, je suis bien contente aujourd'hui de pouvoir vous parler dans la pensée de la semaine du mot amitié. L'amitié est un bien précieux. Si tu l'accordes et qu'elle t'est accordée, ne la néglige pas. Prends-en soin comme de toi-même. L'amitié est comme les ailes du papillon, fragile. Ne la blesse pas par orgueil. Ne l'anéantis pas, guidé par de mauvaises raisons. Pose-toi dans la réflexion et avant d'agir, demande-toi si tes intentions sont justes, si elles ne risquent pas de mettre ce bien précieux en danger. Aimer, en amour comme en amitié, demande du doigté et des efforts constants pour que chaque instant privilégie ce que te dicte le papillon de l'harmonie. Voilà ce que j'ai à vous dire sur l'amitié. Donc j'attends vos réflexions, impressions. Qu'est-ce que vous ressentez à travers le mot amitié et que évoque pour vous le mot amitié ?
C'est-à-dire qu'il y a des amitiés qui se défont, qu'on peut avoir confiance en une amitié par exemple. Est-ce que je me trompe ?
L'amitié se mérite.
Avec certaines amitiés, qui se défont, c'est pas ça le truc.
Moi, j'aurais une réflexion philosophique par rapport au mot amitié. Est-ce que l'amitié, ce ne serait pas de l'amour sans relation physique ? Enfin,
pour moi, c'est quelque...
Oui, quelque part, oui.
Enfin, voilà.
Moi, j'ai un beau copain. Sa grand-mère, elle disait toujours, des copains, on en a un, on n'en a pas 36. Et des fois, ce qui est dommage dans l'amitié, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans un certain milieu, un certain état d'esprit, ils se font des amis par rapport à l'intérêt qu'ils peuvent en retirer. Alors que la vraie amitié, à mon avis, elle doit pas être fondée sur l'intérêt qu'on peut retirer d'une personne, que ce soit matériel ou financier, mais c'est plus intellectuel, culturel qu'autre chose.
Bien sûr.
Nathalie, ce thème de l'amitié m'interpelle beaucoup, parce que pour moi, l'amitié, c'est comme la santé, ça s'entretient. Et aujourd'hui, nous sommes au siècle des réseaux sociaux, donc c'est plus facile d'entretenir de l'amitié aujourd'hui, parce qu'il y a Internet, il y a Facebook, il y a le téléphone. Donc pour moi, c'est plus simple aujourd'hui que 20 ans en arrière. Enfin, c'est mon avis personnel.
Moi, je suis pas d'accord.
C'est de l'amitié virtuelle.
Oui, c'est de l'amitié virtuelle. Oui. Parce que justement, on n'a plus cette convivialité qu'on avait il y a certaines années, qu'on ne retrouve, retrouve plus maintenant. Parce que justement, il y a trop d'Internet, il y a trop de modernisation. Et on s'en va vers, je vais peut-être dire un mot, vers la robotisation de l'être humain. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Vas-y, Bruno.
Avant, pour terminer par rapport à ce que tu dis, Roger Lucien, c'est que j'ai fait un texte par rapport à ça, c'est que j'étais en plein dans ma révolution virtuelle sur le monde, tout ça, et puis mon voisin du dessus, ça fait 3 jours qu'il est mort, je me suis pas rendu compte.
Voilà.
On a l'air con. Voilà.
Et moi, je voulais dire que par rapport à l'amitié, en fait, avant, quand on se téléphonait pas, etc., quand il n'y avait pas l'usage du portable, tout ça, d'Internet, on allait boire un verre et on parlait, on se confiait un peu plus, on se confiait, mais maintenant on n'a plus le temps de boire un verre, d'aller manger au restaurant, de faire un petit ciné, enfin d'échanger des relations d'amitié un peu plus épanouies peut-être.
Ouais, tout à fait.
Mais on peut pas tout se dire virtuellement, je sais pas pourquoi.
Gilbert.
Alors l'amitié, c'est un amour sans sexualité, quoi. C'est aimer que les gens. C'est pour cela que c'est ça, la sexualité.
Pour moi, l'amitié, c'est quelquefois de l'amour. L'important, c'est d'être aimé.
Johan, vas-y.
Pour moi, l'amitié, ça s'apprend. On doit découvrir l'autre personne. Ça peut devenir une amitié forte. Et ça existe. Moi, je connais ça, donc...
Pour rebondir ce que vous disiez sur Facebook, ça me fait penser à une caricature que j'ai vue sur Facebook justement. C'est quelqu'un qui est mort, donc qui est dans son cercueil, et c'est dans une église, c'est une veillée funèbre. Et en fait, il y a 100 chaises, il y a deux personnes qui sont assises dans la salle, et ces deux personnes, il y en a une qui dit à l'autre, c'est bizarre, pourtant elle avait 1400 amis Facebook.
Oui, non mais voilà. Oui, donc moi, oui.
Moi je dis en amitié, il faut pas en avoir beaucoup pour. Avoir une amitié, voilà.
Il faut pas avoir peur de donner, parce que quand on donne, on reçoit.
Exactement. C'est ce que j'allais dire.
Donc ensuite, je crois que c'est l'heure de mes deux poèmes. Je crois j'ai deux poèmes.
Donc nous allons passer au poème de Bruno.
Oui, tout d'abord, je vais vous faire retourner à la préhistoire, si ça vous dérange pas. Hein, voilà, poème qui parle de la préhistoire et qui s'intitule Idylle préhistorique. Je me rappellerai toujours de l'idylle que j'eus. Dans un lointain temps préhistorique, avec cette femme qui en poétesse avait l'art de faire rimer silex et sexe en aliment excitante le désir à chaque fois qu'elle voulait jouir. Et je me rappelle à partir d'une première étincelle, elle possédait le talent inné de m'enflammer, ce qui chassait de la caverne où l'on s'aimait l'esprit rustre et primaire de l'ours qui m'a buté. Et le deuxième, c'est une réflexion philosophique sur un... Bon, vous allez voir de qui il s'agit. Le génie de la peinture, que fut Pablo Picasso, en inventant l'art abstrait, est le symbole d'un triomphe, celui d'un artiste qui crée, essentiellement par la raison, dans un monde au progrès cartésien, en crise aujourd'hui, car la vie et l'univers s'expliquent et se commentent aussi par l'irrationnel et la folie.
Merci Bruno.
Content de t'avoir retrouvé aujourd'hui, Bruno.
Oui, c'est pas, comme je disais tout à l'heure avant l'émission, c'est pas le retour de l'enfant prodigue parce que j'ai plus l'âge d'être un enfant, mais voilà, j'ai fait un tour par-ci par-là et puis je suis revenu, quoi, voilà.
Très bien, Bruno. Donc nous continuons avec les devinettes de Florent.
Donc bonjour, chère auditeur, chère auditrice. Je vais. Bonjour, chère auditeur, chère auditrice. J'ai inventé. Donc je vais vous faire réagir sur une nouvelle rubrique qu'on appelle devinette, en fait voilà. Vous devriez me poser des questions et au fur et à mesure de fil en aiguille, il va falloir trouver ce dont il s'agit. Donc ça va être une manif ou bien un homme, une femme, mort ou pas mort dans la politique, dans le cinéma, dans le théâtre ou autre. En fait, c'est à vous de commencer. Allez-y, posez-moi des questions et il faut trouver le truc en voilà. Essayez de savoir plus.
Alors, est-ce que c'est une femme?
Non, c'est pas une femme. Non. Une femme,
est-ce
non.
que c'est un personnage de fiction, un personnage réel?
Non, pas de fiction, non.
Un personnage réel?
Non, pas vraiment.
Est-ce que c'est un sportif?
Un sportif, non.
Est-ce un homme?
Un homme, un homme, oui.
Un homme de spectacle?
Non, spectacle, non.
Est-ce qu'il fait de la politique?
Non.
Est-ce qu'on le voit à la télé?
On l'a vu à la télé, ouais. On l'a déjà vu, on l'a déjà
Est-ce
vu.
Est-ce que c'est un acteur de cinéma?
Un acteur, non.
C'est pas Jean-Luc Delarue?
Non, c'est pas Jean-Luc Delarue.
C'est une personne âgée?
On voit plus lui, en fait.
Il est mort, ouais. Quelqu'un qui est mort. Un homme décédé.
Est-il
Pierre Mondi?
Pierre Mondi, non.
Léon Zitron?
Non, c'est assez récent.
Alors, il est passé à la télé dans les années 90?
Non, bien avant ça. Et c'est une première pour le monde, dans le monde entier. Une première il y a quelques années.
Un homme qui allait sur la Lune?
Oui, c'est ça.
Gagarin?
Non.
Neil Armstrong,
voilà.
J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi?
Et qui nous a quittés le 25 août 2012. Bravo, Johan. Ça fait un point pour Johan. Donc voilà, merci.
Moi, j'allais dire Michael Jackson, en fait.
J'ai le temps d'en faire une deuxième, Ben, ou pas?
Non, on est à 58-40.
D'accord, ok. Merci. Bon.
Merci, Florent.
Merci,
Florent.
Ouais, merci, Florent.
Merci, super.
C'est super bien. Donc, nous allons finir avec la météo de Salima, c'est-à-dire moi-même. Bon, la météo de vendredi. Donc l'instabilité reculera au profit de belles éclaircies. Il fera frais le matin, 11 degrés, l'après-midi, 15 degrés. Et la météo du samedi, un temps sec et assez ensoleillé, s'installera. Le mercure grimpera. Le matin, 12 degrés, l'après-midi, 17 degrés. Merci et très bonne semaine à tous. Au revoir et à bientôt.
Au revoir, la semaine prochaine.
À plus.
En météo, c'était une météo en coup de vent.
C'est vrai.
Moi, je fais tout vite, rien.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est des entonnoirs, parce qu'il donne plus fou dans la tête, et ça gratte des poux sur ma tête, et je viens plus fou, c'est ça des entonnoirs.